Bonjour. Alors, c'est ce qu'on pourrait oser appeler un culte de rentrée, puisque on repart pour... Alors, c'est encore plus palpable pour ceux qui ont des enfants et qui sont, semble-t-il, assez nombreux ici, puisque vu la ribambelle d'enfants, ça concerne beaucoup de monde. Donc, ceux qui ont des enfants savent de quoi je parle quand je parle de rentrée. Les enseignants aussi le savent. Et donc... Le rituel, on va dire social, quand il s'agit de rentrer, ça n'est pas de commencer par faire des études très, très compliquées, très approfondies sur les textes ou ce genre de choses. C'est de mobiliser les énergies et sans parler de slogans, parce que je laisse ça aux partis politiques qui font leurs universités d'été, vous savez. L'université d'été des partis politiques, ça procède de ça aussi. C'est-à-dire, il faut rassembler les troupes, les mobiliser avec des slogans simples, forts. Nous, on n'est pas dans ce contexte-là, mais néanmoins, c'est pas mal. Alors, on ne va pas parler de mots d'ordre, parce qu'il ne s'agit pas de se donner des ordres les uns aux autres, mais il s'agit de, peut-être, en tout cas c'est ma démarche ce matin, de se donner une recommandation simple, facile à mémoriser, mais qu'on va essayer de mettre en pratique, en tout cas, ça sera ma démarche, pour moi personnellement, et si vous pouvez en tirer profit, tant mieux, mettre en pratique dans les temps qui viennent, donc les jours, mais aussi les semaines, mais aussi les mois, autant que Dieu nous permettra de le faire. Alors ça, c'était ma première préoccupation, donner une recommandation qui nous mobilise. Encore une fois, à la fois simple et facile à mémoriser. Et puis, ma deuxième préoccupation, mais celle-là, je ne l'ai pas cherchée, je ne l'ai même pas souhaitée, évidemment, c'est que, ben, vous le savez tous, enfin, en tout cas, la plupart d'entre vous, nous sommes en deuil, puisque on a parlé de la famille de Suzanne tout à l'heure, mais la famille de Suzanne, c'est nous aussi, si les mots ont un sens. Et si on se qualifie, comme la Bible nous y invite, de frères et de sœurs, ça veut dire que nous avons perdu quelqu'un de la famille. Et ça, je voulais aussi le prendre en compte, parce qu'il ne s'agit pas de faire comme si on n'est pas dans un cercle de réflexion ou dans un club quelconque. On est aussi une famille et il faut que ça prenne corps, ça. Mais je sais que c'est le cas. Et ce deuil-là, je souhaitais aussi, enfin, cet état d'esprit dans lequel nous sommes, de la peine qui est la nôtre, de savoir que Suzanne ne sera plus jamais parmi nous, en tout cas corporellement, je voulais aussi l'intégrer, je voulais pas le passer sous silence. Alors j'ai cherché quelque chose qui puisse être à la fois un leitmotiv, c'est-à-dire une phrase mobilisatrice, et puis quelque chose qui en même temps intègre le fait que non seulement la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on a l'habitude de le répéter ici, mais la vie, c'est aussi, enfin cette vie-là, c'est aussi une vie qui croise la mort. Il faut appeler ça la mort, parce qu'on n'en a plus peur. Alors, j'ai choisi un verset, alors je le confesse, sur lequel je suis souvent passé très vite sans même m'apercevoir qu'il existait, ou sans en tout cas le mémoriser. Donc c'est le verset 12 du chapitre 12 de la lettre aux Romains, donc c'est facile. Donc Romains chapitre 12, verset 12, alors on va voir comment c'est traduit ici. Oui, c'est pas mal. « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Alors moi, j'avais, oui, « Soyez joyeux dans l'espérance, patients dans la détresse, persévérant dans la prière. » De toute façon, il n'y a pas, mille manières de traduire les mots qui sont employés. Et donc, « Je me suis choisi », encore une fois, ça n'engage que moi, ce leitmotiv pour cette rentrée. Alors, encore une fois, ces phrases-là parlent d'elles-mêmes, et donc je pourrais aller me rasseoir, vous savez que ce n'est pas mon genre, Donc il faut dire un mot ou quelques mots du contexte dans lequel cette phrase-là est écrite par Paul, puisque dans le texte il y a un avant et un après. Donc Romains 12:12, ça doit vous parler, et ça doit vous parler du fait qu'on est juste après la charnière de la lettre aux Romains. Alors c'est quoi la charnière de la lettre aux Romains ? La lettre aux Romains, c'est d'abord les 11 premiers chapitres, Paul qui dit « Voilà ce que Dieu a fait pour nous ». La bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle, puisque vous savez qu'il dit « Voilà la bonne nouvelle », et la première phrase qu'il emploie pour déclamer la bonne nouvelle, on la connaît presque tous par cœur, « La colère de Dieu se révèle du haut du ciel contre toute l'impiété et toute l'injustice des hommes qui retiennent la vérité prisonnière de l'injustice. » C'est pas ce... Ben moi, si j'avais une bonne nouvelle à annoncer, je commencerais peut-être pas par là, parce qu'au début, ça ressemble pas à une bonne nouvelle. Et donc, il continue en disant, enfin, il fait une démonstration implacable, en disant... les hommes passent leur temps à s'adorer eux-mêmes au lieu d'adorer leur Créateur, et donc Dieu, et ça concerne tout le monde sans exception, et donc Dieu a enfermé tout le monde dans la désobéissance pour pouvoir faire miséricorde à tout le monde. C'est-à-dire, la grâce est pour tous, parce que tous en ont besoin. Et il continue en disant, ben, voilà comment la question s'est réglée, Dieu a sacrifié son Fils, pour pouvoir nous faire grâce de non seulement nos fautes, nos manquements, nos imperfections, mais de ce qui est devenu notre nature même, c'est-à-dire, encore une fois, une créature qui se hisse désespérément au niveau de son Créateur et donc qui s'adore elle-même. Et donc, il termine cette bonne nouvelle, puisque la fin du chapitre 11 est vraiment une fin, en disant « Voilà tout ce que Dieu a fait, et il y a de quoi s'émerveiller. » Et Paul s'émerveille. C'est pas un exposé théorique, c'est pas une thèse, c'est « Voilà ce qui sauve l'humanité. » Paul est conscient et explique on ne peut plus clairement que c'est le salut, au sens, est-ce qu'on meurt ou est-ce qu'on vit, tous autant que nous sommes. C'est ça l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu plus grand. J'ai été bercé dans mon adolescence, par un livre qui est « Le mythe de Sisyphe » de Camus, qui commence par la véritable question, c'est celle du suicide. La vie vaut-elle ou ne vaut-elle pas la peine d'être vécue ? Il y a une question au-delà de celle-là. C'est la mort qui nous est à ce point insupportable, alors que ça ne devrait pas, puisqu'elle est universelle, mais la mort qui nous apparaît tellement comme une anomalie, comment on règle ça ? Comment on se débrouille avec ça ? Et donc, Paul fait son exposé en disant bah, « Tout ça a un sens, et tout ça a surtout une issue. » Et l'issue, c'est que pour ceux qui l'acceptent, et il suffit de l'accepter, Dieu fait grâce parce qu'il a sacrifié son Fils. Et il termine donc en s'émerveillant, parce que Paul l'intellectuel ne reste pas insensible face à ça, et il y a de quoi être ému. Enfin, je pense que tous autant que nous sommes, alors chacun... en fonction de sa personnalité, a sans doute, et heureusement, vécu ça de manière différente. Certains sont plus extravertis que d'autres, d'autres plus introvertis. Mais chacun de ceux qui ont expérimenté ça, qui ont connu, au sens fort, la grâce de Dieu, on sait que ce n'est pas seulement intellectuel, on sait que ce n'est pas seulement un raisonnement auquel on a acquiescé. C'est pas « Ah oui, il a raison », comme on aurait pu le dire de la théorie de la relativité d'Einstein. Non, c'est pas ça. Ça nous prend aux tripes. Ça nous concerne. Ça nous laisse entrevoir la vie à la place de la mort. Et ça, ça fait dire à Paul, même si Paul est un intellectuel qui ne s'émeut pas facilement et qui n'est pas dans la... Enfin, qui est réticent, on le voit dans plusieurs de ses lettres, aux manifestations de la sensibilité. Mais là, il y a de quoi fondre en larmes. Alors, il n'y a pas... On n'a pas le manuscrit initial, donc on ne sait pas si Paul a versé des larmes en écrivant ça. Mais on ne peut pas écrire ça sans émotion. C'est la fin donc du chapitre 11. « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies impénétrables. » Et là, il cite une phrase d'Ésaïe, « Qui a connu la pensée du Seigneur ? Et qui a été son conseiller ? » C'est-à-dire, qui aurait pu imaginer ça ? Qui aurait pu imaginer un Dieu qui nous aime à ce point-là ? Si, comme on le dit maintenant, de manière habituelle, Dieu n'est que le fruit de l'imagination des hommes, alors c'est que les hommes ont beaucoup d'imagination, parce que moi, alors je ne suis pas le plus intelligent des hommes, loin s'en faut, mais imaginer un Dieu capable de ça, j'en suis incapable. Et j'affirme en toute sérénité que aucun homme sur la terre n'aurait été capable d'imaginer un Dieu qui fasse ça. Et c'est ça que Paul exprime en citant Ésaïe. Qui a pu pénétrer cette pensée-là qui consiste pour un créateur à se sacrifier pour ses créatures ? Et du coup, dans la foulée, il va citer Job. Qui a en premier donné quelque chose à Dieu pour prétendre être payé en retour ? Ça veut dire que la grâce, et c'est pour ça qu'on emploie ce terme-là, ça a un sens aussi de gratuité. Dieu ne nous devait rien, et il ne nous doit toujours rien. Mais à partir du moment où il nous donne cette grâce-là, on lui doit tout. Qui a donné le premier pour prétendre être payé en retour, car tout est de lui et par lui et pour lui, à lui la gloire éternellement. Amen. Et là, on pourrait se dire, ça y est, c'est fini, il a annoncé la bonne nouvelle, l'évangile, dans sa totalité, et c'est vrai. Il n'y a rien à ajouter. D'ailleurs, il termine par Amen. Bon, c'est fini. Sauf que, comme on le sait, il n'y a pas que 11 chapitres à la lettre aux Romains. Il y en a d'autres. Et donc là, on est à la charnière. Et il va commencer, contre toute attente, un chapitre 12 qui commence par « donc ». Donc, ça, ce cadeau inouï, immense, impensable, inimaginable de Dieu, ça appelle de la part de l'être humain qui en bénéficie une réponse. Ah bon ? Donc, offrez-vous entièrement. La suite, donc, le début du chapitre 12. Je vous invite donc, mes frères, au nom de la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire à cause de ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce sera là votre culte. Alors là, pardon, mais ma Bible traduit spirituel. Là, c'est raisonnable. Ça me plaît mieux déjà raisonnable que spirituel. Le vrai terme qui convient, c'est cohérent. Pour ceux qui connaissent le grec, le mot qui est employé là, c'est le mot d'ailleurs qu'on a récupéré en français, logiké, dont on a fait logique. Logique au sens de, pas au sens de la logique mathématique, mais logiké, ça veut dire cohérent, c'est-à-dire qui prend du sens et qui donne du sens. Alors, là, Paul démontre à quel point il est grec de culture, mais juif de socle intellectuel. J'entends par là, et pas seulement. C'est-à-dire que, vous le savez, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, pour les Grecs, il y a une... Alors, oui, ce que j'ai oublié de préciser, si tu peux afficher le... Voilà, à offrir... Voilà, alors c'est mieux traduit là-dedans, je ne sais pas, c'est quelle traduction, ça ? La seconde. Voilà, donc c'est mieux traduit que dans la top, puisque là, il dit « à vous offrir vous-même », et effectivement, le mot qui est employé, « soma », c'est « vos corps ». Et là, dans la culture ambiante de l'époque, c'est une curiosité. Pourquoi ? Eh bien parce que, pour les Grecs, encore une fois, on est plusieurs à savoir ça, pardon pour ceux pour qui je le répète, pour les Grecs, il y a l'esprit d'un côté, le corps de l'autre, il y a un antagonisme fondamental entre les deux. Donc, pour les Grecs, l'esprit, globalement, c'est bien, et le corps, c'est la source des ennuis. C'est-à-dire qu'il y a une guerre entre l'esprit et le corps, et il faut impérativement, c'est le but de tout grec, enfin de toute personne de culture grecque, et ils sont nombreux autour du bassin méditerranéen à cette époque-là, même les Romains sont de culture grecque dans ce sens-là du terme, puisque ce sont les Grecs qui ont imposé leur philosophie à tout le monde. Donc, le but, c'est de faire en sorte que jamais le corps ne prennent l'ascendant sur l'esprit, mais qu'au contraire, toujours, l'esprit domine le corps. En fait, il faut museler le corps. Il faut le... Alors, il y a, encore une fois, tout le monde est d'accord sur l'analyse, et après, on diverge chez les Grecs au niveau des moyens. Par exemple, vous avez deux écoles philosophiques opposées, que tout le monde connaît bien, ou en tout cas dont tout le monde a entendu parler. Vous avez d'un côté les stoïciens, qui disent le corps, il faut le dresser comme on dresse un animal, c'est-à-dire que l'esprit doit commander, il faut être un être spirituel au sens de prendre l'ascendant sur son corps, et donc, quoi qu'on fasse à son corps, il doit se taire, parce qu'il doit être muselé. Et ça, c'est des choses... Alors, je dis ça parce que, malheureusement, ça va imprégner la chrétienté, avec Philon et d'autres, et on va retrouver ça au Moyen-Âge. Pourquoi est-ce qu'au Moyen-Âge, il y a des religieux qui se flagellent ? Ben, à cause de ça. Parce que le corps, c'est l'ennemi. Le corps, c'est le siège, c'est, j'allais presque dire, le siège du diable. En tout cas, c'est le siège du mal. Et donc, il faut que l'esprit domine le corps, y compris en lui faisant du mal, pour qu'il se taise. Donc, les stoïciens n'allaient pas jusque-là, mais les stoïciens, aujourd'hui, on dit « je suis resté stoïque », ça veut dire « quel que soit ce que j'ai perçu de l'extérieur, je n'ai rien manifesté ». Bon, c'est un peu ça le stoïcisme, c'est très réducteur, mais le stoïcisme c'est ça, c'est l'esprit domine le corps, donc je reste de marbre, quoi qu'il se passe. Et puis, toujours avec la même préoccupation, c'est-à-dire l'esprit doit dominer le corps, il y a à l'autre bout de la palette philosophique, l'épicurisme. Alors, vous savez aussi aujourd'hui ce que ça veut dire être épicurien, c'est-à-dire j'aime bien manger, j'aime bien boire. Bon, c'est pas aussi simple que ça. Mais globalement, c'est le fait que y a une autre manière de faire taire le corps, c'est de lui donner ce qu'il veut. Et après, il nous fout la paix. Donc, donner au corps tout ce qu'il veut. Quand il a faim, donnez-lui à manger. Quand il a soif, donnez-lui à boire. Quand il a... Je ne vais pas tout écumer parce que ce serait scabreux, mais l'épicurisme, c'est ça. Et finalement, quand le corps sera rassasié de tout ce qu'il peut désirer, l'esprit aura la paix. Donc ça, c'est le dualisme, le corps et l'esprit. Mais donc, dans la pensée grecque, c'est le corps contre l'esprit. Et Paul va prendre le contre-pied de ça en disant, mais attendez, la conception que Dieu a de l'homme, c'est pas ça. La conception que Dieu a de l'homme, c'est pas un dualisme entre deux parties de lui-même qui se font la guerre. C'est pas ça. L'homme, je l'ai créé à mon image, enfin, c'est pas, je n'ai pas la prétention de faire parler Dieu, mais ce que Paul dit en disant mais la conséquence que vous allez tirer de l'immense cadeau que Dieu vous fait, c'est au niveau du corps que ça va se passer. C'est-à-dire, alors selon les Grecs, parce qu'il faut aussi un peu détailler le fait que l'esprit pour eux, c'est l'homme intérieur. C'est ce qu'on appelle le nous. Ouais. C'est pour ça que, par exemple, quand le mot le plus fort de l'évangile, de la bonne nouvelle, utilisé par Jésus, changer en grec, c'est metanoia, c'est-à-dire changer l'intérieur de vous-même, changer de l'intérieur. Et pas, alors que y a le contraire de metanoia, alors pardon pour le côté savant du terme, enfin c'est métamorphosis, c'est-à-dire changer la métamorphose, changer la forme. Et quand les hommes de l'évangile annoncent l'évangile en grec, ils disent on n'est pas dans la métamorphose. Ovid a écrit les métamorphoses. On n'est pas dans la métamorphose, on est dans la métanoïa, c'est-à-dire il faut changer l'être intérieur. Mais pour autant, l'être intérieur et l'être extérieur sont un, parce que l'homme est à l'image de Dieu et que Dieu est un. Écoute, Israël, vous connaissez tous la confession de foi fondamentale du judaïsme, celle qu'on répète à chaque cérémonie, enfin à chaque rencontre dans les synagogues. Écoute Israël, c'est dans Deutéronome, je ne sais plus où d'ailleurs, je dois avoir noté ça quelque part. Voilà, Deutéronome 6,4. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu, le Seigneur est un. Voilà. Ah oui, le seul, non. Et le Dieu un, Ehad. Alors, effectivement, si on le traduit comme ça, ça veut dire il n'y en a pas d'autre. Non, ça veut dire que en lui-même, il est un. Ce qui permet, et c'est pour ça que les Juifs ne peuvent pas concevoir ce que nous appelons la Trinité, et c'est pour ça que Jésus va être rejeté, c'est que Dieu est... Parce que pour eux, effectivement, pour le judaïsme, comme d'ailleurs pour l'islam aussi, Dieu est un, c'est-à-dire monopersonnel. L'idée d'un Dieu un en trois personnes, c'est pas concevable pour le judaïsme. Parce que Dieu est nécessairement monopersonnel. C'est-à-dire que s'il y a un Père, un Fils et un Saint-Esprit, ça en fait deux de trop pour un juif. Justement à cause de cette confession de foi fondamentale, Dieu est un. Mais justement, pour les chrétiens, ça explique le fait que quand Dieu dont on dit et on répète, personne ne l'a jamais vu, enfin, il est inconcevable en lui-même. Dieu, dans son être, est évidemment inaccessible, parce que c'est le Créateur et qu'on est les créatures. Donc, si on pouvait le comprendre, on ne serait plus dans ce rapport-là de souveraineté. Dieu est un, mais pour autant, et à cause de ça, quand Dieu devient aussi un corps et un esprit, c'est toujours Dieu. Le Père et moi, nous sommes un, c'est toujours le même, c'est pas un autre. Et quand Dieu est esprit dans le sens de vecteur, de lien avec l'humanité, c'est-à-dire qu'on appelle le Saint-Esprit, c'est toujours Dieu, justement parce que Dieu est un. Donc, alors là, je suis parti dans des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je voulais raconter, mais ça fait rien. Vous me pardonnez, hein ? Donc, Paul dit quoi ? Paul dit, pour nous, il n'y a pas de conflit entre l'être intérieur et l'être qui est en relation, puisque ça, c'est ça, en fait, la notion que les Grecs ont de l'esprit et du corps, c'est pas tant l'idée de ce qui est immatériel et de ce qui est matériel, c'est pas comme ça qu'ils font la répartition des choses. Pour eux, l'esprit et le corps, c'est ce qui nous est propre, ce qui nous est intérieur et ce qui est en relation. Par exemple, la parole, enfin, au sens, c'est pas matériel, ça se matérialise pas. Il n'y a pas des trucs qui se, enfin, si, il y a des ondes sonores, mais il n'y a pas des trucs qui se baladent entre vous et moi quand je parle et que vous m'écoutez. Il n'y a rien de corporel là-dedans, mais pourtant, c'est du corps parce que, enfin, pour les Grecs, parce que c'est ce qui est de moi en lien avec l'extérieur. Et ce que Paul va dire là, c'est ça, maintenant, ça appartient à Dieu et plus à vous. La dimension, puisque vous êtes dans ce que vous avez de plus intime, dans ce que vous avez de plus personnel, dans ce que vous avez de plus essentiel, c'est la différence entre l'essence et l'existence, dans ce que vous avez de plus essentiel, je vous ai sauvé de la mort, j'ai sauvé ça de la mort, eh bien, l'autre partie de vous-même, c'est-à-dire la partie qui est en relation, Paul dit, il est naturel que vous la donniez à Dieu. Donc, offrez vos corps, et ça sera ça, le culte. C'est pas se réunir à 30 dans une pièce, et alors c'est sympa, hein, je ne suis pas en train de dénigrer. On chante, on écoute un type qui raconte des trucs, bon, c'est, voilà, les enfants s'amusent, enfin, pendant ce temps-là, très bien. Mais, alors, effectivement, par facilité, on appelle ça un culte. Paul dit, c'est pas ça le culte. Le culte, c'est pas ça. Le culte, c'est l'offrande qu'on fait à Dieu. Qu'est-ce qu'on a à lui offrir ? Alors déjà, il commence par nous dire, bon, n'allons pas nous imaginer que Dieu nous doit quelque chose. Personne n'a donné en premier pour prétendre être payé en retour. Mais par contre, vu l'immensité incommensurable du cadeau qu'il nous fait, ben, on lui doit bien ce qui était voué à la mort et ce qu'il a décidé de ressusciter. Et donc, dans notre être, dans la partie de notre être qui est en relation avec l'extérieur, et le corps matériel en fait partie, mais pas que, ben là, on va évidemment donner ça à Dieu. Et donc, on ne s'appartient plus, et ça explique toutes les phrases de cette nature. Alors, ça veut dire que on va être des animaux bizarres, nous les chrétiens, parce que on va avoir un flux descendant de l'esprit vers le corps de manière systématique, alors que chez les autres, la plupart du temps, c'est le contraire. Je vais m'expliquer là-dessus tout à l'heure. Nous, on va faire avec notre corps, c'est-à-dire avec notre être en relation, des choses qui dépendent, qui découlent, au sens premier du terme, de notre relation avec Dieu, c'est-à-dire du fait qu'à l'intérieur, on est autre. On est, j'allais dire métamorphosé. Non, parce que dans métamorphose, il y a morphos, c'est-à-dire la forme. Non, on est métanoïé, alors le mot n'existe pas en français, on est changé en profondeur. Et Dieu a mis en nous son esprit, de sorte que on ne peut plus être les mêmes dans notre être en relation. Alors, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire que des choses, alors, aussi fondamentales que l'espérance, parce que dans ce qui nous a été donné par Dieu, il y a l'espérance, et ça veut dire quoi l'espérance ? Alors là, Paul est clair là-dessus, je vais citer quand même quelques textes pour que vous soyez convaincus. Quand Paul dit espérance, ça n'a qu'un sens possible, c'est l'espérance de la résurrection. Quand il emploie seulement le mot espérance, ça veut dire espérance de la résurrection. Alors, j'en veux pour preuve, par exemple, acte 23. Et tout le monde comprend bien de quoi il s'agit. Acte 23, verset 6. Sachant que l'assemblée, là c'est Paul qui comparaît devant le tribunal, hein, qu'on appelle le Sanhédrin, sachant que l'assemblée était en partie sadducéenne, c'est-à-dire les gens qui ne croient pas à la résurrection, et en partie pharisienne, c'est-à-dire les gens qui y croient, Paul, entre parenthèses gros malin, ça c'est moi qui ajoute, s'écrie au milieu du Sanhédrin, Frère, je suis pharisien, fils de pharisien, c'est pour notre espérance, virgule, la résurrection des morts, que je suis mis en jugement. » Donc, quand Paul dit « c'est pour notre espérance », il est clair, c'est pour l'espérance que ne partageaient pas les Sadducéens, c'est-à-dire la résurrection des morts. Même chose au chapitre suivant, chapitre 24, verset 14. J'ai dit 24, 14. Voilà. « Voici ce que je reconnais, je suis au service du Dieu de nos pères, selon la voie qu'eux qualifient de secte. Je crois tout ce qui est écrit dans la loi et les prophètes. J'ai cette espérance en Dieu, et eux aussi la partagent, qu'il y aura une résurrection. » Et ainsi de suite. Alors, je peux continuer, mais j'ai un catalogue. « Et aujourd'hui, si je suis traduit en justice, c'est pour l'espérance en la promesse que Dieu a faite à nos pères, et que nos 12 tribus, en assurant le culte de Dieu, nuit et jour, sans relâche, espèrent voir aboutir. C'est pour cette espérance que je suis mis en... au roi que je suis mis en accusation par les Juifs. Pourquoi juge-t-on incroyable parmi vous que Dieu ressuscite les morts ?» Donc, quand il dit « espérance », ça veut dire espérance de la résurrection. Parce que ce qui nous a été donné, et ce que Paul explique dans les 11 premiers chapitres de la lettre aux Romains, c'est que, comme l'avait dit Jésus, celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Celui qui croit en moi vivra, même s'il est mort. Nous avons cette espérance de la résurrection. Et donc, en fonction de ce que j'ai dit précédemment, ça ne peut pas ne pas découler dans notre être en relation. Et qu'est-ce que ça va donner concrètement d'avoir cette espérance? Évidemment la joie. Ça change la donne de savoir que même si on est mort, et on sera forcément mort un jour au sens corporel du terme, selon la promesse de Dieu, on vivra. Alors, je suis parti, pardon, parce que du coup, ça va être, j'ai sauté pas mal de choses, mais à la limite, peu importe. Je voudrais quand même, parce que moi, je suis fasciné par l'intellectuel qu'est Paul, et il y a un passage absolument magnifique, parce qu'il s'adresse à des gens qui ont cette conception dualiste. Et donc, comme il a l'habitude de le faire, il entre dans les représentations, comme on dirait aujourd'hui, il rentre dans les représentations de ses interlocuteurs. C'est-à-dire que lui, qui n'a pas une conception dualiste de l'humain, il est capable d'expliquer les choses avec la conception dualiste. Et ça, intellectuellement, c'est fabuleux. Un exemple. Dans les 11 premiers chapitres, quand il explique, il va, avec les textes bibliques, qui pourtant ne sont pas dualistes, il va expliquer à des gens qui, eux, ont cette conception dualiste que j'exposais tout à l'heure, il va leur expliquer ce que c'est que la foi. Et c'est dans donc le chapitre 10, les versets 8 à 10, on va se contenter des versets 8 à 10, un petit peu avant quand même. Bon, il commence par dire, « Moïse écrit de la justice qui vient de la loi, l'homme qui l'accomplira vivra par elle. » Parce que là, on est dans le système de la loi, on est à l'inverse du système de la grâce, c'est-à-dire que il suffit de prendre la structure des textes. Dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, c'est quoi? C'est un Dieu qui commence par dire « Voilà tout ce que vous devez faire. Voilà tout ce que, surtout, vous ne devez pas faire. » Et puis qui finit son exposé en disant maintenant vous savez ce qu'il faut faire, vous savez ce qu'il ne faut pas faire. Vous avez devant vous le choix, la mort ou la vie, la bénédiction ou la malédiction, faites votre choix, bonne route. Bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fonction de ce qu'on va faire ou pas faire, eh ben, il y aura à l'arrivée un résultat qui peut être dans un sens ou dans l'autre. La bénédiction ou la malédiction, la mort ou la vie. La structure de l'épître aux Romains, c'est exactement le contraire. C'est voilà ce que Dieu a fait pour nous, voilà le cadeau inouï que Dieu nous fait. Et ça, c'est vraiment cadeau, c'est-à-dire rien en échange. Rien en échange. Maintenant, voilà la conséquence que je vous invite à en tirer. Mais ça ne veut pas dire que si on ne tire pas de conséquence, il nous reprend le cadeau. La grâce, c'est la grâce. Et donc, Paul fait cet exposé en disant, voilà ce que dit la justice qui vient de la loi, l'homme qui l'accomplira vivra par elle. Tu veux la vie ? Ben, tu fais ce qu'il faut pour ça. On n'est pas dans cette alliance-là. Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi, alors là il fait des citations, là il y aurait des choses passionnantes à dire, mais on n'a pas le temps. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, ce serait en faire descendre Christ, ni qui descendra dans l'abîme, ce serait faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc ? Donc la justice qui vient de la foi, la parole, et là il cite de mémoire, c'est dans quel livre ? C'est dans Isaïe, ça, je crois. C'est dans le Deutéronome, je suis en train de dire une bêtise. C'est dans le Deutéronome, la justice qui vient de la foi parle ainsi, que dit-elle donc ? La parole est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est la parole de la foi que nous proclamons. Si avec ta bouche, tu confesses que Jésus est le Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. En effet, croire dans son cœur conduit à la justice et confesser de sa bouche conduit au salut. Là, il fait un exposé dualiste, c'est-à-dire si dans ton être intérieur, tu crois, et si par voie de conséquence, parce que pour lui, l'être humain est un, donc ça peut pas aller dans deux sens différents, il peut pas y avoir de grand écart, c'est-à-dire partir dans deux directions entre l'esprit et le corps. Donc, si tu crois dans ton cœur, tu confesses de ta bouche. Et le fait de se donner à Dieu, c'est se donner à Dieu non seulement dans son être intérieur, mais aussi dans son être en relation. Et là, s'il y a bien un organe qui est, par définition, l'expression de l'être en relation, c'est la bouche. Dieu, quand il se met en relation, alors que lui, il n'est pas obligé, hein, quand il se met en relation, ben, c'est le début de l'histoire. Et Dieu dit. Dieu dit, ça veut dire... Enfin, le fait que ce terme soit employé, le fait que Dieu se mette à dire quelque chose, ben, ça en fait un être en relation. Ça en fait un être qui n'est pas simplement refermé sur lui-même, mais qui, j'allais dire, s'ouvre vers l'extérieur. C'est un peu cavalier de le dire comme ça, mais c'est ça. Et donc, la définition que Paul donne de cette justice qui vient de la foi, et donc de la foi elle-même, ben c'est ça affecte ton être intérieur, tu crois dans ton cœur, et ça ne regarde que toi, ça ne regarde que toi et Dieu. La question de savoir si tu crois ou pas, et comment tu te jettes dans les bras de Dieu, ça c'est l'intimité de chacun, et personne d'autre n'y a accès. Mais ton être en relation, ton être externe, ton corps, comme il le dira dans le chapitre suivant, c'est-à-dire ta bouche notamment, eh ben, elle a aussi sa part. J'insiste là-dessus aussi, j'ouvre une parenthèse que je vais refermer très vite, aussi parce que nous entrons dans une période où on va nous imposer, on va vouloir nous imposer cette dichotomie. C'est-à-dire, on va vouloir nous imposer une relation avec Dieu qui n'est qu'intime, mais qui ne doit pas passer par l'être en relation. C'est-à-dire que toute forme d'expression de la foi, au sens où Jésus est l'expression de Dieu, toute forme d'expression de la foi, notamment en public, va être proscrite. Et là, il faudra être fort, parce que si on est cohérent, si on est logiqué, logique, mais au sens grec du terme, on ne peut pas croire dans son cœur sans confesser de sa bouche. Mais ça, je ne suis pas prophète, mais je vois venir avec des indices, comme on dit dans mon métier, précis et concordants, je vois venir le moment où on va nous dire « autant que vous voulez, croyez dans votre cœur, mais ou confessez de la bouche quand vous êtes à l'église ou quand vous êtes chez vous, mais dans l'espace public, c'est un délit. » Et là, il faudra, et là j'implorerai que Dieu me donne le courage qu'aujourd'hui j'ai pas, il faudra être capable de dire, on ne peut pas, nous, les chrétiens, vivre les choses comme ça. Alors, je ferme ma parenthèse et je reviens à cette idée que la joie, quand il dit quoi au verset 12 ? Soyez joyeux dans l'espérance. Voilà, pas mal ça. L'espérance, qu'elle soit votre joie. Voilà. L'espérance que vous avez en vous, dans votre être intérieur, qu'elle se décline dans votre être en relation, dans votre corps, par la joie. Mais pas que. C'est-à-dire, tout ce qui fait votre foi et au-delà, votre relation avec Dieu, ça doit, au sens fondamental du terme, prendre corps. Et donc, puisque l'espérance, personne ne peut me l'enlever, Jésus peut dire tranquillement à ses disciples, dont je suis, personne ne t'enlèvera ta joie. Personne ne peut t'enlever ta joie, parce que ta joie, elle vient de l'espérance que je t'ai donnée. Et l'espérance de la résurrection, c'est quelque chose que j'ai mis dans ton être intérieur, auquel personne n'a accès. Donc si personne ne peut venir voler l'espérance que j'ai mise en toi par mon esprit, eh ben, la joie qui en découle, personne ne te la prendra non plus. On te met en tôle, ça fait rien, t'es joyeux quand même. On a des tas d'exemples dans la Bible. On te persécute, on te fait toutes les misères du monde. Mais ta joie, elle ne remonte pas le courant, elle le descend. Et effectivement, les autres, tous les autres, dit Paul, et je vais y venir dans un instant, tous les autres, ils sont déterminés par leur environnement. C'est-à-dire que, prenez les gens de votre entourage, ou du mien, est-ce que tu es joyeux ou pas ? Ça dépend des circonstances, c'est ce qu'on vous dira. Ça dépend des circonstances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que mon environnement va déterminer le sentiment que j'ai de joie ou de pas joie. Il y a des moments où je suis joyeux parce que je suis avec les potes, top, on fait tourner les serviettes, donc là c'est la joie. Et puis il y a des moments, je me suis fait larguer, moi j'entends ça à longueur de semaine, hein, je me suis encore fait larguer, j'ai payé plus de TVA que j'ai fait de chiffre d'affaires ce mois-ci, donc je tire un peu la tronche parce que, voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'extérieur qui détermine l'intérieur. Nous, on est dans la configuration opposée. Alors, je pourrais dire aussi que quand Paul va déterminer les trois... ce qu'on appelle en théologie les vertus théologales, mais c'est un mot détestable, quand il va parler de la foi, de l'espérance et de l'amour. C'est des choses évidemment intérieures, mais auxquelles le principe s'applique. C'est-à-dire la foi c'est quelque chose d'intime pour le coup, j'ai la foi ou j'ai pas la foi, comme on a l'habitude de dire, ça ne regarde que moi, mais le message que donne la Bible sur le sujet, et là c'est Jacques qui s'y colle, vous connaissez la lettre de Jacques et la sortie à la hussarde qui fait contre le fait qu'il y a des gens qui disent « moi j'ai la foi, mais ça ne se voit pas. Ah ben, montre-moi ta foi sans tes œuvres, dit Jacques. Moi, je te montre ma foi par mes œuvres. C'est-à-dire que la foi qui est du domaine de l'être intérieur, elle ne se conçoit que si elle se décline par un comportement, c'est-à-dire par ce que fait mon corps, mon être en relation. Mon espérance, on vient de le dire, c'est pareil, et l'amour, alors là, c'est par excellence, et c'est pour ça que Paul dit c'est la plus grande des trois. L'amour, c'est à la fois, mais ça on le sait tous, même humainement, on le sait, c'est à la fois quelque chose que je ressens, c'est un sentiment, mais pas que. Mais pas que, parce que si je ressens, d'ailleurs, on a tous été ados, et même peut-être avant ados pour certains, donc je parle en tant que garçon, quand on sent naître un sentiment, alors qu'il n'est pas encore de l'amour, mais bon, à ce moment-là, on ne le sait pas, mais quand on est attiré par une fille, on a un besoin irrépressible qu'elle le sache. Parce que sinon, enfin, effectivement, ça peut rester platonique et on peut la regarder sortir de l'école des filles et la regarder s'éloigner. Enfin, on s'aperçoit très vite que c'est pas satisfaisant et que c'est plus sympa si on se parle, si on va boire un verre ensemble. Ça veut dire quoi, tout simplement? Que même l'être humain, dans ce qu'il a de plus basiquement humain, il a compris qu'un sentiment, c'était pas fait pour rester au stade du sentiment, mais ça devait se décliner. Et donc, l'amour par excellence, c'est quelque chose qui procède à la fois de l'être intérieur. Je suis le seul à savoir, parce qu'il ne suffit pas que je le dise, évidemment, je suis le seul à savoir qui j'aime vraiment, qui a une place, je vais employer un vocabulaire un peu facile, mais qui a une place dans mon cœur, et pour chaque être, quelle place elle a dans mon cœur, ça c'est de l'ordre de l'intime. Mais par contre, alors la fameuse phrase « il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour », elle a aussi un sens, c'est-à-dire que si je ne montre rien à personne, vous avez le droit, si je me contente de penser, parce que ça reste au stade de la pensée à ce niveau-là, si je me contente de penser tout l'amour que j'ai pour tel ou tel, mais que je suis capable de le regarder crever sans battre des cils, non, là il y a une incohérence, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'où le « tu ne peux pas prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas » si tu n'aimes pas ton frère que tu vois. Alors, voilà tout ce qui est contenu dans cette petite phrase. Soyez joyeux dans l'espérance, c'est-à-dire, comme il l'a dit plus haut, soyez cohérent, soyez, encore une fois, le terme grec de logiquer, mais ne pensez pas logique, parce que logique, c'est trop mathématique. Je ne parle pas pour vous, je parle pour moi. Je demande à mon Dieu de me rendre capable de cette cohérence au quotidien, c'est-à-dire de vivre vraiment mon espérance, mais pas seulement, ma foi et mon amour, pour lui et pour les autres. Alors, à l'inverse, parce qu'il y a la suite, donc, deuxième partie, il n'y a que trois parties, donc ça nous met 2h moins le quart à peu près, ça vous va? Non, je plaisante. On va zapper, comme on dit. Deuxième partie, mais je l'ai déjà un peu évoqué, je ne vais pas dépendre de mon environnement. Donc, on parle d'épreuve, enfin le terme qui est employé peut vouloir dire épreuve, peut vouloir dire détresse, affliction, si on veut, du français un peu vieillot. Tout ce qui est susceptible de nous atteindre négativement, c'est de ça qu'il est question en grec. Eh bien, tout ce qui est... Alors, je ne vais pas, comme si j'étais le débile mental du coin, opposer un rire béat à tous les événements de la vie qui peuvent m'atteindre. Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'ai un corps, donc je ne vais pas faire semblant. Je vais pas. Et c'est ça aussi qui interdit de se couper du monde. C'est parce qu'au Moyen-Âge, on a développé une vision grecque de la foi qu'on a créé les monastères. Mais c'est pas ça que Dieu voulait. Dieu ne voulait pas que je me coupe du monde. Au contraire. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ça veut dire ça. C'est-à-dire, vous fonctionnez, c'est ce que j'ai essayé de décrire, à l'envers des autres. Donc, vous n'êtes pas du monde, mais vous êtes dans le monde. C'est-à-dire, vous êtes des individus en relation. Et il ne faut pas, pour rendre les choses plus faciles, couper les relations. Facile de s'enfermer dans une cellule. Enfin, ça doit être gavant à la longue, mais en tout cas, pour ce qui est des relations avec le monde, pour ce qui est de couper l'atteinte par l'environnement, là, c'est radical. Hein. On n'est pas appelé à ça. On est appelé, au contraire, à rester perméable à notre environnement. Parce que d'abord, si on est coupé de notre environnement, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que si on ne reçoit rien de négatif, on ne peut rien lui apporter de positif. Et notamment pas le message dont on est détenteur. Bon, ça me paraît déjà un point essentiel. Mais surtout, puisque j'ai ce cadeau de Dieu, eh bien, je ne dépends plus de ce qui rentre, de ce que je perçois, au sens de la perception de Kant. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, alors là, on emploie le terme endurance, ma Bible à moi emploie le terme de patience, mais ça veut dire que, enfin, dans un cas comme dans l'autre, endurance ou patience, ça veut dire que ça ne va pas m'atteindre fondamentalement. Bien sûr que je vais recevoir les choses, et parfois en pleine poire, si vous me permettez l'expression. Mais ça ne sera jamais plus fort que ce que j'ai, que ce que Dieu a mis dans mon être intérieur. Et donc, comme je sais que j'ai... D'ailleurs, il y a un texte qui est magnifique à ce sujet, mais je ne sais pas si je vais le retrouver, où on démontre, voilà, c'est Romains chapitre 5, parce que là je vous raconte les choses pas du tout dans l'ordre que je les avais préparées. Il fait aussi un exposé là-dessus, puisque Paul balaye, ratisse très large en matière d'explication. Justifiés par la foi, nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons accès par la foi à cette grâce en laquelle nous sommes établis, et nous mettons notre orgueil dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre orgueil dans nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la persévérance, la fidélité, et la fidélité, l'espérance. Et la boucle est bouclée. C'est-à-dire que non seulement ça ne va pas m'atteindre fondamentalement, donc du coup, je vais attendre que ça passe, je vais être patient dans l'épreuve ou la détresse, comme vous voudrez, patient ou endurant. Donc, ça ne veut pas dire que je vais me barricader contre les événements extérieurs, ça veut dire simplement que je vais les recevoir, quels qu'ils soient, avec une certaine sérénité qui vient du fait que, de toute façon, on ne m'enlèvera pas l'espérance. Et donc, au contraire, ça va m'être bénéfique parce que ça va, et c'est Paul qui le dit, donc c'est plus facile quand c'est lui, ça va, alors il dit, moi, ça m'intéresse, les détresses, parce que les détresses, ça me fait grandir. La fameuse phrase philosophique, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Bon, en gros, il dit ça. Enfin, sauf que lui, il dit, de toute façon, ça ne va pas me tuer. De toute façon, ça ne peut pas me tuer. Ça ne peut même pas tuer ma joie. Puisque personne ne vous l'enlèvera. Bon. Donc, les détresses, la détresse, ça produit la persévérance, parce que là, il dit, dans 12.12, il faut être patient ou endurant. Donc, ça produit la persévérance. La persévérance, ça produit la fidélité, et la fidélité, ça renforce l'espérance. Et donc, voilà. Alors, il y a En fait, le texte que je ne peux pas ne pas lire ce matin, et je vais vous le lire et vous allez comprendre pourquoi, ça c'était quand je vous ai dit, nous sommes aussi une famille en deuil. Il y a un texte que je ne peux pas ne pas lire, mais je voulais vous le lire à la lumière de toutes les explications que j'ai données, et qui étaient un peu longues et peut-être un peu confuses, pardon, mais je veux vous lire, donc vous vous en doutez, la première lettre aux Thessaloniciens et le chapitre 4 et le verset 15. Et encore une fois, pesons bien les mots. Nous ne voulons pas, frères, vous laisser dans l'ignorance au sujet des morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse, comme les autres qui n'ont pas d'espérance. C'est pas, ils ont une autre espérance. Eux, ça ne peut pas être qualifié d'espérance qu'ils ont. Puisque l'espérance, c'est Dieu qui nous la donne. Et il n'y a que lui qui peut la donner. Si en effet nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, de même aussi ceux qui sont morts, Dieu, à cause de Jésus, les réunira à Jésus. Voilà ce que nous vous disons d'après une parole du Seigneur. Nous, les vivants qui serons restés jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas du tout ceux qui sont morts. Car lui-même, le Seigneur, au signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Alors les morts en Christ ressusciteront d'abord, et ensuite nous, les vivants qui serons restés, nous serons enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par cet enseignement. Ceux qui sont morts seront réunis au Seigneur avant ceux qui seront vivants. Et il dit, ça doit nous réconforter. On ne sait pas de combien de temps il s'agit, combien de temps va s'écouler entre le son de la trompette, la première trompette, la deuxième trompette, enfin, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ils disent le simple fait que leur espérance sera récompensée avant celle des vivants. Ils sont en quelque sorte prioritaires pour voir leur espérance, l'objet de leur espérance s'accomplir, c'est-à-dire être réunis au Christ. Ça doit nous consoler. Même si c'est de quelques secondes. Être quelques secondes, si, par exemple, Dieu décidait que c'était aujourd'hui la fin des temps, et donc nous qui sommes vivants, le fait que on le voit un tout petit peu plus tard, même de quelques secondes, que Suzanne, ça doit nous consoler et nous réjouir pour elle. Quelques secondes avant nous, ou quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques années, ou quelques siècles, ou quelques millénaires, le temps de toute façon n'a plus d'importance, mais avant les vivants. Réconfortez-vous les uns les autres par cet enseignement. Alors, le dernier volet, le troisième, mais vous avez compris que je pourrais encore parler longuement, oh là là, tout ce que je n'ai pas dit. Mais je peux revenir, si vous voulez, un autre dimanche, si vous m'invitez. Ça, il faut l'alimenter. J'ai dit que ça coulait, ça découlait dans un sens, et que le monde, tel qu'on l'oppose à Dieu, ne peut pas, par rapport à nous les chrétiens, jouer les saumons, c'est-à-dire remonter à contre-courant. Ça ne peut pas nous atteindre fondamentalement dans notre être intérieur. Notre être intérieur ne dépend plus de notre environnement. Mais évidemment, si ça coule dans ce sens-là, c'est qu'il y a une source. Et la source, c'est pas nous, c'est Dieu, bien sûr. Et donc, le fait de pouvoir faire en sorte que ça coule dans le même sens, ça suppose, de laisser le robinet ouvert. Et le robinet, alors pardon pour la métaphore qui est assez hasardeuse, mais évidemment le robinet c'est la prière. Donc, c'est pour ça qu'il termine, et tout ça est parfaitement cohérent, en disant, en grec, c'est beaucoup plus simple, c'est persévérant dans la prière. Alors, persévérant dans la prière, ça ne veut pas dire n'oubliez pas de faire la prière, priez de temps en temps. Non, ça veut dire laisser le robinet ouvert. Les textes ne disent jamais que Jésus faisait sa prière. En plus, une expression détestable. Mais tous les textes et le grec sait dire les choses des deux manières, donc il n'y a pas d'ambiguïté sur ce point. Jésus, il était en prière. De temps en temps, il se retirait pour être en prière d'une autre manière, d'une manière plus intime, d'une manière plus retirée du monde. Mais il était en prière tout le temps. Et ce qui lui permettait de dire, moi, il n'y a aucune parole qui vient de moi, je ne dis rien par moi-même, mais je dis ce que le Père me donne de dire. Je ne fais rien par moi-même, je fais ce que Dieu me donne de faire. Point. C'est-à-dire que je ne suis que le canal, et pour le coup, dans son cas, le canal parfait de ce que Dieu a mis en moi. Et évidemment, là, j'allais dire c'est facile, pas si facile que ça, parce que ça va à la mort quand même. Mais il y a la même identité. Mais après tout, nous aussi, on a cette identité. Nous aussi, on est des enfants adoptifs, mais des enfants quand même. Et jusqu'à nouvel ordre, tu m'arrêtes si je me trompe, Michel, mais un enfant adoptif, ça porte le nom de son père, et ça porte son identité. Et le père en est responsable. Et si l'enfant, même adoptif, fait des bêtises, j'allais dire un autre mot, vous vous en doutez, c'est le nom du père qui est cité. Donc je suis livré à moi-même à chaque fois que je ne suis pas en prière, c'est-à-dire tout simplement en communion avec Dieu. Donc il dit simplement, ne coupez pas ça, ne fermez pas le robinet, même momentanément. Ah oui, mais là je vais dans un endroit, non, Dieu, décemment, tu ne peux pas venir avec moi. Hop, coupé. Et puis, mais rassure-toi, dès que j'aurai fait ce que j'ai à faire, ou dès que j'aurai dit ce que j'ai à dire et qui devrait te heurter les oreilles, je réouvrirai le truc, mais juste, tu n'auras pas entendu ou tu n'auras pas vu. Non, ben, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça parce que si je ferme le robinet, ben là, le flux s'inverse, c'est-à-dire que je redeviens instantanément perméable à mon environnement. Donc, je suis dans le monde et du monde. Là, je peux vous dire que je le dis comme ça, sur un ton enjoué, mais je me prends des baffes. Ça doit se voir d'ailleurs que j'ai les joues rouges, parce que là, je parle pour moi. Donc, ça veut dire ça aussi. Donc, bon, je vais m'arrêter parce que sinon, ce serait indécent. Mais je me donne, et si vous me permettez très humblement, très modestement, je nous donne ce mot d'ordre, allons, osons l'expression, pour les temps qui viennent. Alors, pour les jours, pour les semaines, pour les mois, pour l'année qui vient, soyons, tu peux le réafficher, joyeux dans l'espérance, patient dans la détresse et persévérant dans la prière. Voilà ce que je demande à Dieu, et si tu veux bien tard, tu vas venir lui demander directement de faire ça pour nous, parce qu'on a besoin de son aide. Je vais prier.